Chapitre 13. Une petite chambre à Hacienda. Tous les muscles raidis afin de résister au balancement du coche sur ses amortisseurs de cuir, Elaine s'efforçait de ne pas voir le visage morose de Ninevée assise en face d'elle. Malgré les tourbillons de poussière qui pénétraient de temps en temps par la fenêtre, chassant opportunément un peu de la chaleur de fin d'après-midi, les rideaux étaient ouverts et laissaient apercevoir le paysage. Une longue succession de collines boisées entre lesquelles se nichaient parfois une ou deux fermes et des champs cultivés. Dans le lointain, au sommet d'une de ces collines, Elaine remarqua un manoir de seigneur typique de l'architecture de la Madicia, une imposante base de pierre de quelques 50 pieds de haut et par-dessus, une structure de bois sophistiquée, parée de balcons délicats et de toits de tuiles rouges. À une époque, le bâtiment tout entier aurait été en pierre, mais ça faisait beau temps que les seigneurs de la Madicia n'avaient plus besoin de forteresses, et les édits royaux imposaient désormais que les constructions soient en bois. Une façon d'assurer qu'aucun seigneur renégat, s'il venait à en surgir un, ne puisse résister longtemps à un siège. Bien entendu, les fils de la lumière n'étaient pas soumis à cette loi, et à tout un tas d'autres. Elaine l'avait appris dans son enfance, en même temps qu'une multitude de choses sur les coutumes et les législations des autres pays. Sur certaines collines, des champs labourés en terrasse faisaient une série de taches brunes sur un fond uniformément vert jaune. À cette distance, les paysans qui y travaillaient ressemblaient à des fourmis. Dans ce paysage, tout semblait desséché au point qu'un seul éclair, tombant au bon endroit, aurait sans doute pu déclencher un incendie géant. Mais pour qu'il y ait la foudre, il fallait un orage. Et les rares nuages qui dérivaient dans le ciel paraissaient trop hauts et pas assez pensus pour ça. Elaine se demanda si elle aurait pu provoquer une averse. Son contrôle sur le climat était bien meilleur qu'avant, mais quand on devait partir de rien, ce n'était pas évident.
« Votre seigneurie s'ennuie ?»
demanda Ninevée, ironique.
« À la façon dont votre seigneurie regarde défiler le paysage, et à sa moue dédaigneuse, je me permets de supposer qu'elle aimerait voyager plus vite. »
Tendant une main derrière elle, Ninevée ouvrit un petit guichet et cria.
« Plus vite, Tom ! Et ne discute pas, surtout ! Toi non plus, Julien le pisseur de voleurs ! J'ai dit plus vite !»
Le guichet se referma tout seul, mais Elaine entendit quand même Tom marmonner sur son banc. Et grenait un chapelet de jurons plutôt, parce que Ninevée harcelait les deux hommes depuis le début de la journée. Puis il y eut un claquement de fouet, et le coche prit encore de la vitesse, secouant les deux passagères au point qu'elles rebondissent sur leur banquette tendue de soie rouge. Après avoir acheté le véhicule, le trouvère avait nettoyé le tissu, mais sans pouvoir rien faire pour le rembourrage, devenu aussi dur que le bois qu'il y avait dessous. Si malmené que fût son postérieur, Ninevée serra les dents avec un entêtement qu'Hélène connaissait trop bien. Après lui avoir dit d'accélérer, il n'était pas question qu'elle ordonne au trouvère de ralentir.
« Ninevée, s'il te plaît, je... »
commença Elaine.
« Votre seigneurie ne se sent pas à l'aise ? Je sais qu'elle est habituée au confort. Un plaisir de la vie que les humbles servantes ne peuvent pas connaître. Mais j'imagine qu'elle entend atteindre la prochaine ville avant la nuit. Ainsi, l'humble domestique de votre seigneurie pourra lui servir son dîner et lui préparer un lit douillet. »
Un chaos la forçant à fermer la bouche, l'ancienne sage-dame foudroya la fille héritière du regard, comme si c'était sa faute. Elaine soupira à Pierre Fambre. Ninevée s'était rendue à l'évidence presque toute seule à Mardessine. Une dame ne voyageait jamais sans une servante. En conséquence, deux dames auraient dû en avoir au minimum deux. À moins de déguiser en femme Tom et Julien, ça impliquait que l'une d'elles joue la seigneurie, tandis que l'autre se ferait passer pour sa dame de compagnie. À partir de ce constat, Ninevée avait bien été forcée de reconnaître qu'Elaine en connaissait bien plus long qu'elle sur le comportement des nobles dames. La fille héritière ayant mobilisé tout son tact, son amie s'était montrée raisonnable, comme c'était souvent le cas quand on parvenait à la convaincre avec un raisonnement sensé. Souvent, oui, mais pas toujours. Dans la boutique de Rondemakura, après avoir fait boire aux deux femmes leur ignoble décoction, l'ancienne sage-dame et la fille héritière avaient semblé d'accord sur le protocole à suivre. Après leur départ précipité de Mardessine, les quatre fugitifs avaient voyagé dur jusqu'à minuit, où ils étaient enfin arrivés dans un petit village doté d'une auberge. Tirant le propriétaire du lit, ils avaient loué deux petites chambres au lit minuscule. Se réveillant dès l'aube, ils étaient repartis aussitôt et avaient décrit un assez large cercle pour contourner Amador. Même si leur couverture était parfaite, ils n'avaient aucune envie de traverser une cité pleine de capes blanches. Surtout quand la forteresse de la lumière s'y dressait avec arrogance. D'après ce qu'Hélène avait entendu dire, s'il y avait bien un roi dans la capitale, c'était néanmoins Pedron Nial qui faisait la pluie et le beau temps. La belle harmonie entre la dame et sa servante avait commencé à se lézarder la veille, dans un village nommé Bellone, qui s'étendait au bord d'un cours d'eau boueuse pompeusement baptisé Rivière Gaïane.
Située à quelques 8 lieues d'Amador, la bourgade disposait d'une auberge, au gué de Bellone, bien plus spacieuse et bien plus confortable que la précédente. La propriétaire, maîtresse Alfara, avait proposé à Elaine de dîner dans une salle à manger. Le genre d'offre difficile à décliner, il fallait l'admettre. De plus, maîtresse Alfara s'était déclarée certaine que seule Nana, la servante de Dame Morellin, l'identité adoptée par Elaine, pouvait se charger du service. Les dames avaient des exigences bien particulières et hautement légitimes que de pauvres employés comme celle de l'auberge n'auraient sûrement pas pu satisfaire. Oui, Nana, après avoir officié au dîner, saurait exactement comment préparer le lit de sa maîtresse et à quelle température, au degré près, lui mitonner un bon bain qui la délasserait après une rude journée de voyage. La liste de tout ce que Nana ferait mieux que quiconque d'autre s'était révélée quasiment interminable. À cause des exigences pointilleuses de la noblesse du cru? Ou parce que maîtresse Alfara avait saisi l'occasion de faire trimer une pauvre femme sans la payer? Bien entendu, Elaine avait tenté d'épargner au maximum Ninévé, mais celle-ci en avait au contraire rajouté dans la soumission, multipliant les « vos désirs sont des ordres » et lançant à l'aubergiste une cataracte de « oui, ma maîtresse est très exigeante en effet ». Si elle avait insisté pour être moins bien traitée, nul doute qu'Elaine aurait éveillé les soupçons de maîtresse Alfara. Et l'idée des déguisements était de passer inaperçue, pas vrai? Durant tout le séjour à Bellone, Ninévé, en public, avait joué la parfaite dame de compagnie. En privé, elle avait poussé le bouchon un peu loin. Alors qu'Elaine aurait voulu que son amie redevienne elle-même, l'ancienne sage-dame l'avait accablée d'un ahurissant numéro de domestique zélé. Et quand la fille héritière avait voulu s'excuser, elle y avait gagné des « votre seigneurie est trop bonne » ou des silences à glacer les sangs.
« Plus question que je m'excuse »,
pensa-t-elle pour la 50e fois.
« En tout cas, pas pour ce qui n'était pas ma faute. Ninévé, j'ai réfléchi à quelque chose. »
Agrippée à un harnais qui pendait là, seule la lumière savait pourquoi, Elaine avait l'impression d'être la balle dans une partie de rebond. Un jeu prisé des enfants andoriens consistant à faire rebondir sur une raquette une balle de bois de toutes les couleurs. Cela posé, pas question qu'elle demande à Tom de ralentir. Tant que cette tête de pioche de Ninévé supporterait d'être secouée ainsi, elle prendrait son mal en patience.
« Je veux atteindre Tarvalon et savoir ce qui s'y passe, mais votre seigneurie a réfléchi ? Oh, pas la lumière ! Elle doit avoir une atroce migraine après un tel effort. Dès que nous serons arrivés, je lui préparerai une infusion de langue de mouton et de marguerite rose. Si tu la fermais un peu, Nana ?»
lâcha Elaine, d'un ton très calme, mais d'une terrifiante fermeté. La meilleure imitation de sa mère qu'elle puisse produire. Bien entendu, Ninévé en resta bouche bée.
« Et si tu me fais le coup de la natte, tu finiras le voyage sur le toit, avec les bagages. »
L'ancienne sage-dame tenta de parler, mais ne réussit à émettre qu'un couinement indigné.
« Quel doux spectacle ! Parfois tu me traites comme si j'étais toujours une enfant, mais c'est toi qui as un comportement puéril. Je ne t'ai pas demandé de me laver le dos. Mais pour t'en empêcher, il aurait fallu que je me batte. Cela dit, j'ai proposé de te laver le tien en échange, tu t'en souviens ? Et j'étais prête à dormir dans le lit gigogne. Mais tu as sauté dessus, et pas moyen de t'en déloger. Cesse donc de bouder. Si tu veux, c'est moi qui ferai la servante dans la prochaine auberge. »
Un désastre en perspective. Ninévé ne manquerait pas d'enguirlander Tom en public ou de souffleter quelqu'un. Mais si la paix était à ce prix...
Si tu veux, on peut s'arrêter et se changer dans un bosquet. La robe de seigneurie est à ta taille,
marmonna Ninévé. Elle rouvrit le guichet et cria.
Moins vite ! Tu veux nous tuer ? Les hommes, quand même !
Dans un grand silence montant, ou plutôt descendant du banc du cocher, le véhicule passa à une vitesse raisonnable. Pariant que les deux hommes parlaient en chuchotant, Elaine en profita pour rectifier un peu sa coiffure. Rien de très aisé en l'absence de miroir. Dès qu'elle posait les yeux dessus, ses tresses noires manquaient lui arracher un petit cri. En femme avisée, elle constata au passage que sa robe aurait elle aussi besoin d'un bon coup de brosse.
« Tu as réfléchi à quoi, Elaine ?»
demanda Ninévé. Les joues roses, elle savait à l'évidence que la fille héritière ne l'avait pas tensée sans raison. Mais avec elle, inutile de s'attendre à des excuses. C'était déjà beau qu'elle revienne un peu en arrière.
« Nous fonçons vers Tarvalon. Mais avons-nous la moindre idée de ce qui nous attend à la tour ? Si la chère d'Amerline a vraiment donné ses ordres, je n'y crois pas. Ça semble insensé. Mais je refuse de remettre un pied à la tour avant d'avoir compris de quoi il s'agit. Seule une idiote fourre les mains dans un arbre creux sans avoir d'abord jeté un coup d'œil à l'intérieur. Une femme avisée, cette Ligny. Si je repère un autre bouquet de fleurs jaunes accroché à l'envers, nous en apprendrons peut-être davantage. Pour l'heure, nous devrions nous comporter comme si la Jeanne Noire avait pris le pouvoir à la tour. Maîtresse Makoura doit déjà avoir envoyé à Narenwin un pigeon, avec la description de ce coche, de nos robes, et probablement aussi de Tom et Julin. Nous n'y pouvons rien. Et ça ne serait pas arrivé si nous avions moins traîné pour traverser le Tarabone. Il aurait fallu prendre un bateau.
Elaine n'apprécia pas le ton accusateur, mais Ninevé eut l'honnêteté de rosir de nouveau.
« Bon, ce qui est fait est fait. Moiraine connaît Siouan Sanche, et Gwen peut lui demander si... »
Le coche s'arrêta si brusquement qu'Elaine bascula en avant et atterrit sur Ninevé. Tandis qu'elle tentait de se dégager, sa compagne la repoussant d'ailleurs sans ménagement, elle entendit les chevaux hennir et racler nerveusement le sol avec leurs sabots. S'unissant au Saïdar, la fille héritière passa la tête par la portière et se coupa de la source authentique. Il n'y avait aucun danger, seulement une curiosité qu'elle avait vue plus d'une fois dans les rues de Kemlin. Sur le côté de la route, dans une clairière, une ménagerie itinérante était à l'arrêt. Dans une cage qui occupait toute la partie arrière d'un chariot, un grand lion à crinière noire somnolait. Dans une autre, ses deux compagnes faisaient nerveusement les 100 pas. Une troisième était ouverte. Devant, une femme entraînait deux ours noirs au museau blanc à se tenir en équilibre sur un gros ballon rouge. Une autre cage encore abritait ce qui semblait être un grand sanglier. N'était sa gueule bien trop pointue, ses pattes terminées par des griffes, et sa pilosité bien peu caractéristique. Originaire du désert des Aïel, ces animaux portaient le nom de capards. Il y avait d'autres bêtes dans la caravane, par exemple des oiseaux aux couleurs chatoyantes. Mais la particularité de cette ménagerie était ailleurs. Contrairement à tous ceux qu'Elaine avait vus, ce cirque animalier se déplaçait avec des artistes humains. Dans la clairière, deux hommes jonglaient avec des cerceaux parés de rubans, quatre acrobates s'exerçaient à former une pyramide humaine, et une dompteuse lançait des morceaux de viande à une dizaine de chiens debout sur les pattes de derrière ou en train d'exécuter des cabrioles. À l'arrière-plan, deux types s'affairaient à planter dans le sol deux grands poteaux dont Elaine ne parvint pas à deviner l'usage. Rien de tout ça n'expliquait l'arrêt brutal de l'attelage du coche. Malgré toute son habileté, Tom semblait toujours incapable de calmer les chevaux. L'odeur des fauves montait aux narines d'Elaine, certes, mais les équidés semblaient effrayés par trois énormes bêtes au cuir gris bizarrement plissé. Des défenses flanquant leurs longs museaux qui touchaient presque le sol, les deux plus grosses faisaient bien la taille du coche. La troisième, plus petite que les chevaux mais au minimum aussi lourde, n'avait pas de défense. Un jeune, supposa Elaine. Pour l'heure, une femme aux cheveux blonds très clairs le caressait derrière une oreille avec une lourde perche à crochet. Elaine avait déjà vu des animaux de cette espèce, et elle aurait cru ne jamais en revoir. Portant sur les épaules une épaisse cape rouge, un détail stupéfiant par cette chaleur, un grand type brun sortit du campement et vint faire une révérence devant le chariot. Plutôt bel homme, le galbe du mollet avantageux, ce gaillard en haut de chausse semblait tout à fait conscient d'être agréable à regarder.
« Madame, je suis navré que mes chevaux sangliers géants aient effrayé votre attelage. »
Se redressant, l'homme fit signe à deux de ses compagnons de venir calmer les chevaux du coche. Puis il regarda de nouveau Elaine et murmura.
« Allons, ne t'emballe pas, mon cœur. »
Juste assez fort pour que la fille héritière entende, sans avoir besoin de tendre l'oreille.
« Je me nomme Valan Luka, noble dame, et je suis montreur d'extraordinaires spectacles. Votre présence me comble de bonheur. »
Luka se fendit d'une révérence encore plus raffinée que la première. Elaine regarda Ninevé à la dérobée et vit qu'elle souriait ironiquement, tout comme elle. Un patron de ménagerie bien présomptueux, ce Valan Luka. Cela dit, ces hommes faisaient du très bon travail avec les chevaux, qui ne semblaient plus au bord de la panique. Tom et Julien, eux, contemplaient avec des yeux ronds les étranges créatures.
« Des chevaux sangliers, maître Luka ?»
lança Elaine.
« Des chevaux sangliers géants, madame !»
riposta le patron de la ménagerie.
« Originaire de l'incroyable Chara, où j'ai en personne conduit une expédition en des territoires hostiles, peuplés d'étranges civilisations. Un monde plein de paysages mystérieux et de pièges mortels. » Vous raconter mes aventures me fascinerait, madame. Pensez que j'ai vu des créatures deux fois plus grandes que les ogiers. »
Luka gesticula d'abondance pour illustrer son propos.
D'autres qui n'avaient pas de tête. Des oiseaux assez gros pour emporter entre leurs serres un taureau adulte. Des serpents capables de gober un homme. Des cités faites d'or pur. Descendez de votre coche, madame, et je vous dirai tout.
Elaine ne douta pas un instant que Luka soit du genre à être fasciné par ses propres fadaises. En revanche, elle ne croyait pas un instant que les chevaux sangliers soient originaires de Chara. Primo, parce que le peuple de la mer lui-même n'avait jamais rien vu de plus concernant Chara que les ports fortifiés où on confinait les visiteurs. En sortir revenait à signer sa sentence de mort. Du coup, les Aïel n'en savaient pas plus long non plus. Secondo, Ninevé et elle avaient vu des créatures similaires à Falm pendant l'invasion des Séanchaniens,
qui les utilisaient comme bêtes de peine et animaux de guerre.
« Je crains que ce ne soit pas possible, Maître Luca. »«
Alors, laissez-nous donner une représentation pour vous. Comme vous le voyez, ce n'est pas une ménagerie classique, mais un concept résolument nouveau. Une représentation privée. Des acrobates, des jongleurs, des animaux sauvages domptés, l'homme le plus fort du monde. Nous avons même avec nous une illuminatrice. En route pour le Gealda, nous serons partis demain, mais pour quelques pièces. »
« Ma maîtresse vient de dire que ce n'était pas possible. »
coupa Ninevée.
« Et elle a mieux à faire de son argent de toute façon. »
En réalité, c'était l'ancienne sage-dame qui se montrait d'une invraisemblable pingrerie. Ne lâchant pas un sou sans rechigner, comme si elle refusait d'accepter que les prix soient plus élevés dans le grand monde qu'à Deux-Rivières.
« Pourquoi voulez-vous aller au Gealdan, Maître Luca ?»
demanda Elaine, consciente que sa compagne soufflait sur les braises et lui laissait ensuite le soin de noyer l'incendie.
« J'ai entendu dire qu'il ne fait pas bon y vivre en ce moment. À ce qu'il paraît, l'armée n'aurait pas pu éliminer cet homme, le prophète, qui annonce la venue du dragon réincarné. Vous ne voulez sûrement pas vous précipiter vers des émeutes ?
Ce sont des rumeurs très exagérées, madame, très exagérées. Partout où il y a des foules, des gens aspirent à être divertis. Et ma troupe répond toujours « présente ».
Hésitant un peu, Luca finit par approcher du coche. L'air gêné, il croisa le regard d'Elaine.
Madame, la vérité, c'est qu'en nous autorisant à jouer pour vous, c'est vous qui nous feriez une faveur. Pour être franc, un des chevaux sangliers a provoqué un incident dans la prochaine ville que vous traverserez. C'était involontaire, croyez-moi. Ces créatures sont inoffensives. Hélas, les gens de Sienda m'ont interdit de donner une représentation chez eux. Et ils refusent de venir y assister ici. Rembourser les dégâts et payer les amendes m'a mis sur la paille. Surtout les amendes, d'ailleurs. Si vous acceptez de me payer, trois fois rien, je vous assure. Je vous nommerai marraine de ma troupe, et votre nom sera connu et célébré partout où nous passerons, madame.
Moreline,
dit Elaine.
Dame Moreline de la maison Samared.
Avec sa nouvelle couleur de cheveux, elle pouvait passer sans peine pour une caïrienienne.
Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le temps d'assister à votre spectacle. Mais je peux vous aider si vous êtes vraiment démunis. Nana, donne un peu d'argent à Maître Luca.
Elaine ne voulait surtout pas que son nom soit connu et célébré partout où passerait la troupe. Cela dit, aider les pauvres et les personnes en détresse était un devoir qu'elle tenait à accomplir, même dans un pays étranger. En grommelant, Ninevée saisit une de ses bourses, fouilla dedans, puis se pencha assez par la fenêtre pour glisser quelque chose dans la paume de Luca.
« Si vous exerciez une honnête profession,
marmonna-t-elle,
vous n'auriez pas besoin de mendier.
En route, Tom !»
Le trouvère fit claquer son fouet, et Elaine fut propulsée en arrière sur son siège.
« Tu n'avais pas besoin d'être impoli, ni brusque d'ailleurs. Que lui as-tu donné ?»
Un sou d'argent,
dit Ninevée en rangeant la bourse dans sa sacoche de ceinture.
C'est déjà plus que ce qu'il méritait.
Ninevée, cet homme va probablement penser que nous nous sommes fichus de lui. Avec les épaules qu'il a, travailler un peu ne lui fera pas de mal.
Elaine ne fit aucun commentaire, même si elle ne partageait pas entièrement cette opinion. Pour sûr, travailler ne risquait pas de tuer Luca. Mais encore fallait-il qu'il trouve de l'ouvrage.
De toute façon, je doute qu'il accepterait une occupation qui lui interdirait de porter sa superbe cape.
Si elle faisait remarquer à Ninevée que l'emploi était rare, ça déclencherait à coup sûr une polémique. Chaque fois qu'elle faisait gentiment connaître à l'ancienne sage-dame des choses qu'elle ignorait, ça lui valait des accusations allant du complexe de supériorité à l'insupportable arrogance. Au sortir d'une altercation, Valan Nuka ne valait sûrement pas la peine d'en provoquer une autre. Les ombres s'allongeaient lorsque les voyageurs atteignirent Sienda, un assez grand village aux bâtiments de pierre, mais au toit de chaume, qui possédait deux auberges. La première, au lancier du roi, avait un trou béant à la place de la porte d'entrée. Sous l'œil d'une petite foule, des artisans s'affairaient à réparer les dégâts. Le cheval sanglier de Luca avait peut-être été offensé par l'enseigne, gisant à côté du trou pour le moment, qui représentait un soldat en train de charger sa lance à l'horizontale. À première vue, le panneau de bois semblait avoir été arraché. De manière plutôt surprenante, il y avait davantage de capes blanches ici qu'à Mardessine. D'autres soldats arpentaient les rues. En côte de maille, un casque conique sur la tête, ils arboraient sur leur cap bleu l'étoile et le chaudron de la Malicia. De toute évidence, il y avait dans les environs une garnison de l'armée régulière. Et entre les fils de la lumière et les soldats du roi, l'atmosphère ne semblait pas à la franche camaraderie. Lorsqu'ils se croisaient, ils s'ignoraient, au mieux, ou se défiaient du regard, comme s'ils étaient sur le point de dégainer leurs armes. Certains fils arboraient un bâton de berger rouge derrière le soleil qui ornait leur cap, des membres de la main de la lumière. Le nom qu'ils donnaient à leur ordre,
mais on les appelait plutôt les confesseurs. Des hommes dangereux, dont même les autres capes blanches se tenaient éloignés. Devant tant de militaires, Elaine eut l'estomac noué. Mais il ne restait guère plus d'une heure de jour, même en tenant compte des couchers de soleil plus tardifs en été. En voyageant la moitié de la nuit, le coche n'aurait aucune garantie d'atteindre un autre village. De plus, une conduite si étrange risquait d'attirer l'attention sur les voyageurs. Sans mentionner qu'ils avaient une bonne raison de s'arrêter plus tôt en ce jour. Elaine consulta Ninevé du regard.
« Il faut faire étape »,
confirma l'ancienne sage-dame. Lorsque le coche s'arrêta devant la seconde auberge, la lumière de la vérité, Julien sauta à terre pour courir ouvrir la portière. Avec la déférence requise, Ninevé attendit qu'il étendît une main à sa maîtresse pour l'aider à descendre. Mais elle fit à Elaine un petit sourire qui laissait augurer qu'elle ne sombrerait plus dans la bouderie. Le sac de cuir qu'elle accrocha à son épaule n'allait pas trop à une servante, mais bon. Depuis qu'elle s'était reconstituée des réserves d'herbe et d'onguents, l'ancienne sage-dame refusait obstinément de s'en séparer. Dès qu'elle vit l'enseigne de l'établissement, la copie conforme du soleil que les fils arboraient sur leur cape, Elaine regretta que le cheval sanglier ait choisi l'autre auberge pour cible. Au moins, elle ne vit pas trace d'un bâton de berger derrière l'astre éblouissant. Bien entendu, une bonne moitié des clients se révélèrent être des fils, leurs casques posés devant eux sur la table. Prenant une profonde inspiration, Elaine dut mobiliser toute sa volonté pour ne pas s'enfuir en courant. Si on oubliait la soldatesque, l'auberge, avec son haut plafond aux poutres apparentes et ses lambris sombres, était un endroit plutôt agréable. Des branches vertes décoraient le foyer des deux cheminées éteintes, et de bonnes odeurs de cuisson montaient des cuisines. Les serveuses en tablier blanc qui se faufilaient entre les tables semblaient à la fois accueillantes et compétentes. Si près de la capitale, l'arrivée d'une dame ne provoqua guère d'émotion. Où était-ce à cause du manoir si proche? Quelques hommes regardèrent Elaine, d'autres, plus nombreux, reluquèrent sa servante. Mais ils s'en retournèrent promptement à leur vin lorsqu'elle les eut foudroyés du regard. Pour Ninevé, même s'il ne disait et ne faisait rien, qu'un homme ose la regarder était déjà hautement inconvenant. Cela posé, se demanda Elaine, pourquoi Diantre ne s'habillait-elle pas d'une manière moins agréable à l'œil? Pour s'assurer que sa robe grise tombait bien, la fille héritière avait dû jouer ardemment du fil et de l'aiguille, car en matière de couture, Ninevé avait à peu près la délicatesse d'un laboureur. Assez enveloppée, de longues boucles grises encadrant son visage souriant aux yeux d'aigle, l'aubergiste, maîtresse Jaren, était du genre à repérer à 20 pas un ourlet élimé ou une bourse plate. Elaine et Ninevé passèrent l'examen haut la main, puisque la commerçante leur fit une grande révérence avant de leur souhaiter la bienvenue et de s'enquérir si la noble dame venait d'Amador ou s'y rendait.
« J'en reviens. »
répondit Elaine avec juste ce qu'il fallait de hautaine langueur.
« Les bals y sont vraiment très agréables, et le roi Aelron est aussi beau qu'on le raconte. Mais il faut que je retourne sur mes terres. Je voudrais louer une chambre pour moi et pour ma servante, et un quelconque coin pour mon valet et mon cocher. »
Se rappelant le lit gigogne, elle ajouta.
« Une chambre avec 2 lits séparés. J'ai besoin de Nana, mais avec un lit gigogne, ses ronflements m'empêcheront de dormir. »
Le masque de déférence de Ninevé se lézarda, très peu par bonheur. Mais c'était pourtant la vérité. Elle ronflait comme un sonneur.
« Bien entendu, madame, » dit l'aubergiste. « J'ai ce qu'il vous faut. Mais vos employés devront dormir dans l'écurie sur des bottes de foin. Comme vous le voyez, mon établissement est pris d'assaut. Hier, une troupe de vagabonds est venue avec d'horribles monstres, et l'un d'eux a pratiquement rasé le lancier du roi. Le pauvre Sim a perdu plus de la moitié de ses clients, qui se sont tous réfugiés ici. »
Elle eut un sourire plus satisfait que navré.
« Par bonheur, il me reste une chambre.
Je suis sûr qu'elle sera parfaite. Si vous pouvez nous faire monter un repas léger et de l'eau chaude, j'ai l'intention de me retirer très tôt. »
Bien que le soleil fût encore assez loin d'être couché, Elaine étouffa discrètement un bâillement.
« Vos désirs sont des ordres, madame. Et si vous voulez bien me suivre ?»
Se sentant obligée de distraire sa cliente en la guidant jusqu'au deuxième étage, maîtresse Jaren répéta que l'auberge était presque pleine. Un miracle qu'il lui soit resté une chambre. Et revint sur l'affaire de la troupe, des monstres et de la façon dont on avait fichu dehors tous ces importuns. Puis elle évoqua tous les nobles qui étaient descendus chez elle, sans oublier le seigneur général des Fils de la Lumière un jour. La veille, un quêteur du corps s'était arrêté à Sienda. Il était en route pour Théar, où la célèbre pierre, à ce qu'on disait, était tombée entre les mains d'un faux dragon. Mais quand même, quelles abominations commettaient les hommes dès qu'ils en avaient l'occasion.
« En tout cas, j'espère qu'ils ne le trouveront jamais, pour sûr que je l'espère. »«
Vous parlez du corps de Valère ?»
demanda Elaine.
« Pourquoi donc ?»«
Parce que si on le trouve, madame, ça signifiera que l'ultime bataille est proche. Le ténébreux en liberté dans le monde. Fasse la lumière qu'on ne trouve jamais cet instrument. Car dans ce cas, l'ultime bataille n'aura jamais lieu, n'est-ce pas ?»
Elaine ne sut trop quoi objecter à une logique si aberrante. Sans être exiguë, la chambre se révéla plutôt petite. Entre les deux couches étroites au couvre-lit à rayures, il y avait juste la place de passer pour accéder à la fenêtre donnant sur la rue. Une petite table où trônait une lampe et un briquet à silex était posée entre les lits, et une coiffeuse équipée d'un miroir tenait lieu de coin toilette. Par bonheur, tout était propre et net, y compris le petit tapis à fleurs. L'aubergiste tapota les oreillers, lissa les couvre-lits, assura que les matelas en plume d'oie seraient parfaits, déclara que le valet pourrait monter les affaires de la dame par l'escalier de service et affirma que la nuit serait des plus agréables, d'autant plus qu'un doux courant d'air aérerait la chambre si la dame ouvrait la fenêtre et laissait la porte entrebâillée. Comme si Elaine allait dormir avec sa chambre ouverte aux quatre vents. Avant que la fille héritière ait réussi à ficher dehors l'aubergiste, deux domestiques arrivèrent avec un broc d'eau chaude et un plateau recouvert d'un torchon blanc. Sous le tissu, on reconnaissait la forme d'une carafe et de deux coupes.
L'aubergiste a dû avoir peur que nous allions au lancier du roi malgré la brèche dans la façade,
dit Elaine quand tout le monde fut sorti. Regardant la chambre, où il y aurait à peine assez de place pour elle et leur coffre, elle fit la grimace.
Je me demande si nous n'aurions pas mieux fait. Je ne ronfle pas,
dit Nénévé, morose.
Bien sûr que non, mais il fallait bien que je dise quelque chose.
Nénévé soupira à Pierre Fendre, mais elle n'insista pas.
Je suis contente d'avoir déjà sommeil. Excepté la fourche racine, je n'ai rien trouvé qui aide à dormir dans les placards de Dame Makura.
Aidée de Tom, Julien eut besoin de trois voyages pour monter dans la chambre les coffres bardés de fer. Bien entendu, les deux hommes râlèrent d'abondance parce qu'ils étaient obligés de passer par l'escalier de service, particulièrement étroit. En apportant le premier coffre, celui aux charnières en forme de feuille, l'argent, les objets de valeur et les terres angréales récupérées y étaient rangés, ils semblèrent vouloir se plaindre d'être relégués dans les écuries, mais un coup d'œil à la chambre les dissuada d'aller plus loin dans cette voie.
« Nous allons fureter un peu dans la salle commune, »
dit Tom lorsque le dernier coffre fut en place, interdisant presque l'accès à la coiffeuse.
« Puis nous ferons un tour dans le village, »
ajouta Julien.
« Quand l'atmosphère est tendue, les langues ont tendance à se délier. »«
Une très bonne idée, »
dit Elaine. Tom et Julien tenaient tellement à croire qu'ils ne servaient pas qu'aux travaux de force. Pour être honnête, ils avaient été bien plus utiles que ça à Tanchico, et plus encore à Mardessine. Et ils le seraient sans doute encore à l'avenir. Mais dans un trou comme Sienda.
Surtout ne vous attirez pas d'ennuis avec les capes blanches, hein ?
Les deux gaillards se regardèrent avec consternation, à croire qu'Elaine ne les avait jamais vus revenir de leur mission d'information avec des plaies et des bosses. Mais elle leur pardonna cette réaction et sourit à Tom.
J'ai hâte d'entendre ton rapport. Demain matin,
grogna Nénévé en s'efforçant de ne pas regarder Elaine. Une manière indirecte de la foudroyer du regard.
Si vous nous dérangez pour moins qu'une attaque de Trolloc, il vous en cuira.
Le regard qu'échangèrent les deux hommes en dit très long sur ce qu'ils pensaient. Bien qu'agacés, Nénévé consentit à leur donner quelques pièces, et ils fichèrent le camp en assurant qu'ils ne perturberaient pas le sommeil de ces dames.
« Si je ne peux même plus parler à Tom ?»
commença Elaine. Mais Nénévé ne la laissa pas terminer.
« Je ne veux pas qu'il me voie endormi en sous-vêtements !»
S'avisant que sa compagne peinait à déboutonner sa robe, Elaine voulut l'aider, mais elle se fit rembarrer.
« Je me débrouillerai. Occupe-toi plutôt de sortir l'anneau. »
Vexée, la fille héritière remonta sa jupe pour accéder à la poche secrète qu'elle avait cousue à l'intérieur. Si Nénévé voulait se montrer désagréable, eh bien qu'elle ne se gêne pas. Mais elle ne répondrait pas à ses provocations, même si l'ancienne sage-dame recommençait à râler ferme. La poche secrète contenait deux bijoux, la bague au serpent d'accepté d'Elaine et un anneau de pierre. Strié de rouge, de bleu et de marron, cet anneau, trop grand pour tenir à un doigt, avait une forme bizarrement aplatie. Si incroyable que ça paraisse, il n'avait qu'un côté. Lorsqu'on passait un doigt sur sa surface, on revenait à son point de départ sans avoir dû en soulever la pointe. Il s'agissait d'un terrain gréal, et sa fonction consistait à donner accès à Tel Aranriod, même aux gens qui n'avaient pas le don des Gwen ou de certaines matriarches. Il suffisait de s'endormir en étant en contact avec le bijou, et contrairement aux deux terrains gréal repris à l'âge noir, celui-là n'imposait pas qu'on canalise le pouvoir. Pour ce qu'en savait Elaine, un homme pouvait bien être capable de s'en servir. Vêtue de sa seule chemise de lin, Nénévé ajouta l'anneau à la lanière de cuir où pendait déjà sa bague au serpent et la chevalière de l'âne. Puis elle refit le nœud, cala ses trésors entre ses seins et s'allongea sur un des lits, la tête confortablement posée sur l'oreiller.
« Quand arriveront Egwene et les matriarches ?»
demanda Elaine.
« Je ne peux jamais dire quelle heure il est dans le désert des Aïels. Il reste du temps, sauf si Egwene est en avance. Mais ce ne sera pas le cas. Les matriarches ne laissent pas beaucoup de mou à Salès. Et ça lui sera bénéfique à long terme. Cette petite a toujours été bien trop têtue.
Ninevée ouvrit les yeux, leva la tête et regarda la fille héritière comme si ses propos avaient tout aussi bien pu la viser.
« N'oublie pas de lui dire de parler à Rand au sujet de ce que je pense de lui. »
Pas question d'entrer dans le jeu de l'ancienne sage-dame, pour sûr que non.
« Qu'elle lui dise, eh bien, que je l'aime et qu'il n'y a de place que pour lui dans mon cœur. »
Voilà, c'était sorti. Ninevée roula de gros yeux, une réaction qui n'avait rien de flatteur.
« Si tu y tiens, »
marmonna-t-elle en laissant retomber sa tête sur l'oreiller. Alors que le souffle de sa compagne ralentissait déjà, Elaine tira un coffre contre la porte et s'assit dessus. Depuis toujours, elle détestait attendre. Et si elle descendait dans la salle commune, ça ferait les pieds à Ninevée. De plus, Tom y serait sans doute et rien du tout. Il était censé être son cocher. Ninevée avait-elle songé à ce détail avant d'accepter de jouer les servantes ? Elaine soupira et s'adossa à la porte. Bon sang, ce qu'elle détestait attendre.